France Inter. Le 18-20, Jérôme Cadet.
Un port avec des bateaux à quai et du public autour pour voir et encourager les marins. Ça se passe au Havre, Saint-Paul-Vatines depuis vendredi et jusqu'à dimanche, le jour du départ de la Transat Jacques Vabre vers la Martinique. Ça n'a l'air de rien. Mais pour qui a encore en tête les images du port des Sables d'Olonne, désert il y a un an pour le départ du Vendée Globe à huis clos en pleine deuxième vague de Covid, il y a de quoi mettre du rêve dans nos têtes et du vent dans leurs voiles. Cette fois pas de solitaire, puisque la Jacques Vabre est une transat en double avec toutes sortes de bateaux et de formats, du petit monocoque classe 40 au géant des mers, les ultimes 32 mètres de long et des pointes de vitesse à 80 km/h. Lorsque le navire se hisse sur ses foils à cette vitesse et à cette altitude au-dessus de l'eau, peut-on encore parler de bateau? Jusqu'où faut-il pousser la performance? La notion d'aventure et de découverte résiste-t-elle à la compétition? Comment concilier le sport de haut niveau et la protection de la planète? Que nous apprennent ces marins capables d'humour et de solidarité dans les conditions les plus extrêmes? On en parle ce soir, c'est le téléphone sonne. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
On va tout de suite aller au standard avec Alexandre. Bonsoir Alexandre.
Moi, je suis passionné par la privation de sommeil des skippers quand ils font ce genre de transat. Je sais qu'ils dorment très peu et que leurs études, leur performance et sert en psychiatrie, notamment pour étudier le sommeil des malades, des patients.
Merci pour votre question, Alexandre. On va s'intéresser au sommeil de nos invités, à leurs rêves et à leurs préparatifs avant leur départ dimanche. Je vous les présente. Armel Lecléache, bonsoir.
Bonsoir.
Skipper de ce Maxi Banque Populaire 11, trimaran ultime, vainqueur du Vendée Globe en monocoque cette fois, c'était en 2017. Deux fois deuxième également de ce Tour du Monde. Triple vainqueur de la solitaire du Figaro. Vous embarquez dimanche avec Kevin Escoffier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez remporté cette Transat Jacques Vabre, c'était en 2005, en double avec votre papa à l'époque. Vous avez aussi longtemps travaillé pour Banque Populaire et accompagné Armel en tant que chef de projet avant de vous lancer en solitaire dans le Vendée Globe. On s'en souvient en 2020, Tour du Monde qui se terminera par un naufrage, un sauvetage épique au large de l'Afrique du Sud par Jean Lecam. La question du sommeil, Armel Lecléache, est-ce que vous vous préparez déjà d'ici dimanche à rentrer dans une phase où on dort peu?
On se prépare, oui, parce qu'on est avec Kevin depuis un moment en pleine préparation pour cette Transat Jacques Vabre, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une vie saine, de dormir normalement, de faire des bonnes nuits, d'avoir une bonne alimentation, une préparation physique qui a été complète depuis plusieurs mois. On nous demande souvent la question, est-ce que vous commencez déjà à vous mettre dans un rythme de sommeil séquentiel? Est-ce que vous faites des petites siestes la nuit et vous vous réveillez? Alors je dirais que non, au contraire, il faut ce qu'on nous apprend avec les spécialistes du sommeil avec qui on travaille, ils nous disent il faut arriver les batteries pleines, donc en pleine forme, faire des bonnes nuits, arriver en pleine forme pour le grand départ. Et puis c'est vrai qu'après, on va avoir un sommeil assez plus rythmé. Alors on a la chance, c'est qu'en double, on va pouvoir dormir avec notre équipier qui sera en veille, et donc avoir un vrai sommeil, alors qu'en solitaire, c'est quand même plus compliqué.
Vous allez naviguer vraiment ensemble, combien d'heures par jour, Kevin?
On va dire qu'on réussit à faire des siestes de pratiquement 2 heures. Après, il faut s'adapter encore une fois.
Et sur 24 heures, ça fait combien accumulé?
Généralement, on arrive quand même à faire 6 heures
de sommeil. De sommeil par jour.
Ouais, 6 heures
c'est
de
pas
sommeil
mal.
Par jour. Oui, non, franchement, on dort surtout en double, on dort pas trop mal. Après, quand on parle de 6 heures de sommeil, c'est dans les phases où les conditions météo le permettent. Là, on sait que sur le départ, c'est souvent assez chargé en termes de rythme. Il y a la Manche, il y a beaucoup de trafic maritime, il peut y avoir des conditions météo compliquées pour dégolfer, c'est-à-dire sortir du golfe de Gascogne. Donc là, ça peut être beaucoup moins. Et souvent, Armel disait, il faut partir avec les batteries pleines, mais souvent, pour pouvoir tomber dans un rythme de sommeil où on réussit à bien dormir sur des siestes, ça passe forcément par une phase où on a un petit peu de fatigue, c'est-à-dire par une phase de dette de sommeil pour se mettre dans ce rythme-là. Mais c'est vrai qu'en double, c'est beaucoup plus facile de trouver le sommeil quand on va à la banette.
Alexandre nous disait à l'instant, Armel, les scientifiques étudient les sommeils, le sommeil des navigateurs, ça nous en apprend, nous, qui restons à terre, beaucoup sur notre sommeil. Vous avez été débriefé ainsi après vos différentes traversées autour du monde?
Alors, pas directement dans ce cas-là, mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à travailler sur la partie solitaire, la gestion du sommeil en solitaire, on a travaillé avec des médecins qui, eux, étudiaient les gens qui ont des apnées du sommeil, c'est-à-dire des gens qui ont des problèmes pour la nuit, notamment pour dormir avec un rythme un peu compliqué. Et nous, bah, pour enregistrer nos cycles de sommeil, savoir un petit peu, avoir un peu une carte d'identité propre à chacun, parce qu'on est tous différents avec le sommeil, et puis ça évolue dans le temps, avec l'âge, moi j'ai fait une nuit comme ça chez moi avec des électrodes sur la tête. Voilà cet appareil qui était utilisé pour ceux qui faisaient ces apnées du sommeil et avoir justement des chiffres et pouvoir justement étudier et échanger avec les spécialistes.
Voilà, donc les scientifiques récupèrent les données des marins qui partent, par exemple, dimanche pour cette Transat Jacques Vabre. J'en disais un mot en introduction, Kevin Escoffier, on a une question de Christelle de Périgueux qui nous parle du retour du public. Si vous avez pu discuter déjà avec des gens ces derniers jours, est-ce que ça a pu vous faire, vous qui étiez au départ il y a un an dans ce huis clos terrible, ce silence désertique des Sables d'Olonne avant le Vendée Globe?
Ouais, c'est vrai que ce huis clos, moi, il j'étais en fin de compte pour nous, si on est purement égoïste, ça changeait pas grand-chose dans le sens où on avait la chance de continuer à pouvoir faire notre sport, à partir faire des courses. Par contre, la grosse déception, c'était pour le public, pour les familles, parce qu'il y a aussi quand même des gens autour de nous à qui on demande beaucoup le fait de partir, on leur demande des concessions sur leur propre projet. Et c'est vrai que la façon de les rétribuer ou la façon de rétribuer le public, c'était aussi de leur offrir des sensations sur les départs ou sur les arrivées. Et c'est vrai que nous, on a pu partir, on a pu faire notre sport, mais c'était très décevant pour le public et nos proches de ne pas pouvoir être au départ.
L'année dernière, il y avait confinement, c'est ça? Vous ne pouviez voir personne plusieurs jours avant le départ?
Ouais, exactement.
Rafraîchissez-nous un peu la mémoire, parce qu'on a quand même le sentiment que c'était il y a très très longtemps, alors qu'en fait c'était juste il y a un an.
Non, moi je m'étais confiné au Sable d'Olonne, en famille, donc avec un appartement désinfecté, les tests PCR pour les enfants.
Ça vous fait
enfants,
rire maintenant, mais il y a un an un peu moins.
Mais non, voilà, c'est vrai qu'on en rigole après coup, parce qu'on apprend à vivre avec, et je pense aussi qu'il faut en rigoler un petit peu, parce que si on réussit pas à vivre avec ce style de choses, si on n'arrive pas à s'y accoutumer, même s'il faut... J'ai envie de dire qu'il ne faut pas trop s'y accoutumer non plus, c'est-à-dire qu'il faut avoir la capacité de remettre ça en question. Mais c'est vrai que ça... Encore une fois, moi je ne l'ai pas mal vécu du tout. C'est-à-dire que c'était une phase à la limite où d'habitude sur les départs on est très pris, on a peu de temps à pouvoir passer en famille. Et bien là c'était l'occasion de passer pratiquement une semaine. On faisait tous les jours, il y avait forcément la météo, faire quelques lives pour les médias. Mais voilà, ça a permis de faire un départ de course où on passait du temps en famille et forcément... Franchement, c'était pas si terrible que ça à vivre, en tout cas pour moi.
Armel, quand on est un animal du grand large, comment on vit les confinements successifs? Parce que vous n'étiez pas au départ de ce Vendée Globe il y a un an.
Oui, alors j'étais venu pour faire un petit peu pour travailler pour d'autres médias
consulter
voilà, pour donner un peu mon retour d'expérience. Et c'est vrai que c'était quand même très très bizarre de voir. Moi j'avais été sur les pontons la veille du départ et il y avait personne à part quelques techniciens de bateaux qui finissaient les derniers préparatifs, mais c'était on n'avait pas l'impression que le Vendée Globe allait partir. Et le matin, j'ai eu la chance de d'interviewer quelques skippers et c'est vrai qu'ils ont ils n'ont pas vécu cette émotion des centaines de milliers de personnes qui viennent mettre de l'animation. Il y a cette sortie de chenal, elle est incroyable. Et je leur souhaite que pour ceux qui auront la chance de repartir dans 3 ans, qu'ils vivent ça, parce que c'est unique au monde.
Donc là, ça rend ce départ de dimanche particulier, le retour des gens.
Ça fait du bien, ouais. Depuis qu'on est arrivé au Havre, le village est en place, il y a du monde, on voit aussi beaucoup d'enfants, et ça c'est super parce qu'on a envie aussi de partager nos aventures, nos projets avec les plus jeunes. Le village au Havre, il est vraiment très chouette parce qu'il y a 80 bateaux, il y a des animations, et c'est vraiment super pour tout le public.
Beaucoup d'enfants qui viennent vous voir. On a une question de Judith qui nous dit: j'ai 6 ans, je vais suivre la course avec ma classe. J'aimerais savoir si vous faites la course pour gagner ou pour le plaisir de naviguer. Kevin.
Les deux. Moi, je pense que les deux, c'est vrai qu'il y a, il y a peut-être certains marins qui ne vont sur l'eau que pour la compétition. Je peux le comprendre aussi, hein, parce que je suis moi-même assez compétiteur, mais j'aime être sur l'eau. C'est-à-dire que je peux revenir d'une course et 3 jours plus tard partir en croisière en famille, pour passer un peu de temps sur l'eau, dans la contemplation. Armel est un peu comme ça, je sais aussi. Donc, non, moi, c'est vraiment les deux. C'est-à-dire que j'aime la compétition, mais j'aime aussi la mer. J'aime être en bateau, même quand c'est pas forcément de la compétition. Et pour répondre à la question, bien évidemment, qu'on y va pour gagner. Après, aujourd'hui, voilà, il y a d'autres paramètres dans le projet. projets qui font qu'il faut aussi d'abord qu'on termine pour apprendre encore sur ce bateau.
C'est un nouveau bateau, c'est sa première transat. On va parler aussi de la spécificité pour vous de cette transat à bord de ce maxi Banque Populaire 11. Pour rebondir sur la question de Judith, Armelle Lecléache, c'est quand le plaisir dans une transat? Est-ce qu'à un moment on se dit ouais, là on va super vite, c'est super, c'est bien?
Oui, non, mais il y a plein de moments de plaisir, heureusement. C'est bien sûr, ça peut être des moments de vitesse, un bon classement, une bonne stratégie, mais aussi.
On a fait ce choix, ça a marché.
Exactement. On est content quand ça fonctionne, mais ça peut être aussi voilà un lever de soleil, un coucher de soleil, une rencontre, des rencontres avec des animaux marins. Quand on voit des dauphins, même des, ne serait-ce que sur les premières heures de course, on va en croiser. C'est toujours voilà, on est des gamins à ce moment-là, quoi. Et c'est on a beaucoup de moments de plaisir parce qu'il y a aussi beaucoup de moments difficiles. Et ça fait du bien à ce moment-là de retomber un peu la pression, d'en profiter, parce qu'on sait que ça peut très vite changer.
Mais quand vous avez terminé deuxième deux fois du Vendée Globe, c'était pas la notion de plaisir qui débordait dès les premiers mots sur le ponton.
Non, mais alors après, non, mais il y a deux deuxièmes places. Il y a une deuxième place, ma première participation où c'était incroyable.
Oui, inespéré.
Quatre ans après, voilà, il y avait plus de la déception de finir deuxième parce que j'étais venu pour gagner. Kevin, on travaillait ensemble à ce moment-là déjà dans le team Banque Populaire, donc on était venu pour ça et on n'était pas passé loin. Mais c'est le sport. C'est aussi pour ça qu'on fait ça. On aime, comme disait Kevin, on aime la compétition. On est des sportifs et donc on a envie de bien faire sur l'eau et de donner le maximum. C'est ce qu'on va essayer de faire sur cette transat avec Banque Populaire.
Et c'était juste derrière François Gabart que vous allez retrouver, qui sera au départ dimanche de l'un de ces cinq navires ultimes. Question de Jeanne au standard de France Inter 01 45 24 7000. Bonsoir Jeanne.
Oui, bonsoir. Et surtout bravo à France Inter pour toutes vos émissions, j'adore. Ce que je voudrais savoir, c'est comment est-ce qu'on arrive à vivre ensemble dans un tout petit espace comme ça pendant 15 jours? Est-ce qu'il faut être très copain déjà avant? Et dans les moments difficiles, par exemple, est-ce que vous êtes toujours d'accord sur les décisions à prendre ou est-ce qu'il vous arrive de vous engueuler, entre guillemets? Et dans ces cas-là, qui décide?
C'est assez clair,
Kevin,
ça. C'est assez clair. Non, mais Armel est le skipper du bateau, donc pour moi c'est pour moi c'est très très clair que si jamais il y a divergence d'opinion, ce sera Armel qui tranchera. Après voilà, je pense qu'on a tous les deux quand même de l'expérience. Donc pour répondre à la question sur la promiscuité, déjà on n'est pas tout le temps tous les deux à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y en a souvent qu'on est en double comme ça, on se relaie entre le sommeil ou faire de la navigation et quelqu'un sur le pont. Il y a toujours quelqu'un sur le pont sur ces bateaux qui sont quand même ça reste des multicoques, donc il faut rester vigilant en termes de sécurité. Donc il y a toujours quelqu'un en train soit de régler le bateau, soit être sur le pont pour être prêt à choquer une voile si besoin.
C'est quoi l'espace de vie à bord, parce que c'était l'un des aspects de la question de Jeanne.
5 mètres carrés.
Oui, voilà, c'est quelques mètres carrés,
ouais,
seulement.
Quelques mètres carrés, c'est et franchement on a tous les deux de l'expérience en équipage, en double. Alors en solitaire, la question se pose moins, même si c'est des fois compliqué de vivre avec soi-même.
Philosophique.
Je suis pas très inquiet. Et c'est vrai, ce qui fait tenir aussi, moi j'ai eu l'occasion de faire deux Volvo Ocean Race où là, sur 8 mois, on était 8 ou 9 à bord et la promiscuité, pour le coup, pouvait poser des problèmes. Et ce qui fait tenir, c'est l'objectif commun. Donc je suis pas très inquiet là-dessus.
Est-ce que le clash peut arriver? Est-ce qu'il y a des exemples de clash entre deux coéquipiers sur une transat en double? Je vous demande pas de balancer des noms ce soir sur France Inter, mais le clash, vous ne le ferez pas. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de gens avec pour qui ça s'est très mal passé, en fait?
Oui, non, c'est sûr que moi j'ai déjà vu à des arrivées de transatlantique des marins qui se parlaient plus trop à l'arrivée. C'est vrai que le choix est important au départ de bien choisir son équipier ou son équipière, parce que on part pour 2 semaines, 3 semaines de cours sur un espace réduit. Donc oui, avec Kevin on s'entend bien parce qu'on se connaît, parce que.
Et vous avez fait des entretiens de recrutement? Comment ça s'est passé?
On a travaillé 10 ans ensemble, donc je savais que ça allait. J'avais pas de doute sur le fait que ça se passe bien. Après, c'est la première fois qu'on va courir ensemble aussi longtemps, donc il y aura peut-être des surprises.
Ça dure pas des mois non plus.
C'est pour mettre du suspense. Quand il fait ça, c'est pour mettre un petit peu de suspense.
Mais c'est sûr que moi j'ai déjà vu aussi des couples partir ensemble. C'était aussi un peu
marié
un test.
Et femme.
Voilà, ou futur mari et femme. Moi j'ai vu à l'arrivée d'une transat, justement un couple avec qui s'était bien passé. Donc le futur mari avait demandé la main à sa femme en arrivant. Donc c'était un test.
Un crash test pour le futur couple.
Voilà, pour voir s'ils étaient prêts à partir à l'aventure, une autre aventure.
Donc ça s'était bien passé, a priori, dans l'exemple dont vous nous parlez, Armelle Lecléache. Un mot de la course en elle-même pour ces cinq ultimes, puisque vous embarquez à bord de l'un de ces trimarans géants. Kevin Escoffier en disait un mot il y a une minute. Le bateau est assez récent, il a été mis à l'eau au mois d'avril. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aller jusqu'en Martinique, de pas casser le bateau. C'est ça le premier objectif, Kevin Escoffier?
Oui, je pense que c'est ça. Le bateau a été mis à l'eau fin avril. Encore une fois, il faut pas perdre de vue, même si on est compétiteur, même si on va faire le maximum avec ce bateau, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a un projet derrière nous, avec une équipe qui a bossé très fort pour reconstruire le Banque Populaire 11 suite à l'accident du Banque Populaire 9. Donc il y a eu une phase quand même, avec pour eux 4 ans de travail intense, et que ce projet s'inscrit dans la durée. Il y a la Route du Rhum l'année prochaine en solitaire, qui est l'objectif principal sportif d'Armel. Donc il ne faut pas oublier tout ça. Le bateau aujourd'hui, on a à peu près fait la 7000 milles de navigation avec, donc on va doubler notre temps et durée de navigation sur le bateau, donc on y va pour régater bien évidemment, mais aussi pour apprendre avec ce bateau, et pour apprendre, eh bien, il faut faire des milles, et pour faire des milles, il faut terminer. Donc l'objectif principal, oui, c'est d'arriver en Martinique.
Kevin vient d'évoquer, Armelle Lecléache, ce chavirage lors de la Route du Rhum, la précédente Route du Rhum, au large des Açores. Vous n'aviez pu aller au bout de cette transat, vous aviez heurté ce qu'on appelle un ovni, un objet flottant non identifié. Qu'est-ce que ça change pour vous au moment de prendre le départ de dimanche? Est-ce que ça rajoute de la pression? Est-ce que vous vous êtes dit, surtout ne change rien, il faut évacuer ce qui s'est passé lors de la dernière Route du Rhum? L'approche?
Non, l'approche, elle s'est faite depuis 2 ans. C'est vrai qu'on a analysé ce qui s'est passé sur la Route du Rhum. On a compris pourquoi le bateau avait cassé. Donc moi, ça m'a permis de repartir à l'aventure sur ces bateaux. En attendant que le bateau se construise, je suis retourné sur des plus petits bateaux, des bateaux, des monocoques de 10 mètres.
C'est compliqué de repartir après ça?
Moi, j'avais besoin surtout de comprendre, voilà, d'analyser, de faire un état des lieux à la fois personnel, mais aussi avec l'équipe. Et assez vite, j'avais vraiment envie d'y retourner. Alors, il fallait aussi avoir le feu vert de la famille, parce que eux, ils restent à terre et ils vivent des émotions intenses quand il arrive ce genre d'accident. Donc, je voulais pas non plus les mettre devant le fait accompli. Et à partir du moment où tout le monde était d'accord, pour moi, c'était normal que je reparte, parce que j'avais vraiment envie de retourner sur ces bateaux qui sont magiques. Alors oui, dimanche, c'est une nouvelle aventure. Là, on part avec Kevin, donc c'est du double. Donc, comme on disait, c'est quand même beaucoup plus facile que de gérer un bateau de cette taille-là, qu'on va le faire en solitaire l'année prochaine. Donc, c'est une super étape avant d'aller naviguer tout seul dans quelques mois. Et ce sera l'année prochaine le grand rendez-vous. Alors, ce sera plus une revanche sur ce qui m'est arrivé en 2018, parce que j'ai envie vraiment de gagner cette Route du Rhum. C'est une des grandes courses au large qui manque à mon palmarès. Les deux dernières éditions se sont à chaque fois, voilà, pas très bien déroulées. Donc, je reste persévérant.
19h39, question de Jean qui nous appelle de Montélimar. Bonsoir Jean.
Bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Oui, moi c'était simplement un témoignage, une question que je me posais. C'est-à-dire que moi j'ai été dans les années 75 ou 77, je ne me rappelle plus, la Whitbread. Donc j'étais jeune charpentier de marine, par amour d'ailleurs, du bois. Et j'ai participé à l'aménagement du Japy Hermès, dont la marraine était Jane Berkins, pour la Whitbread. Et j'ai participé au réglage en rade, il y avait une reportage de l'AFA. Et puis, je me rends compte que les générations, Moitessier, Yann Decat, etc., et puis après, Tabarly, qui a donné qui a ouvert la voie à toute la technologie au niveau des bateaux et des courses au large, je me dis que il y a autant de différences entre les marins d'aujourd'hui qui naviguent, qui font les grandes courses, et sans jugement de valeur, hein, et les marins d'il y a 40 ou 50 ans, il y a autant de différence qu'entre Blériot et Armstrong, quoi. Avec, à l'heure actuelle, les hommes sont confrontés à une technologie. Ils ont derrière eux des équipes, des études, etc. Et ça change complètement le rapport et à la mer, et à l'homme, et à la compétition. Parce que la compétition, quand on voit un moitié sur un Chichester, c'était pas de la compétition, c'était autre chose d'un point de vue philosophique. Ceci dit, sans aucun jugement de valeur. Parce que voilà, c'était juste un témoignage que je voulais apporter.
Merci Jean pour ce témoignage depuis Montélimar. Kevin Escoffier, est-ce que c'est toujours le même sport ? au fond.
Ouais, pour moi, ça reste le même sport parce que on peut voir aussi que il parlait de l'auditeur parlait de Tabarly. Il y a plein d'autres exemples où à chaque fois, je pense qu'en fonction des époques, les gens faisaient aussi au maximum de leur technologie. C'est-à-dire qu'ils faisaient au maximum pour avoir des bateaux rapides. La régate, on ne l'a pas inventée. À l'époque, la régate, ça pouvait être aussi pour un point de vue économique. C'est-à-dire le premier pêcheur qui arrivait au port à la voile à l'époque, c'était celui qui vendait le mieux sa pêche parce que c'était le premier arrivé, donc les prix étaient plus élevés. Quand on partait aux Indes, le premier qui arrivait, il avait la meilleure marchandise. Donc, voilà, sans vouloir remonter trop loin, à chaque fois, je pense que les gens faisaient le meilleur bateau avec la technologie qu'ils avaient de disponible. Aujourd'hui, on a une technologie, c'est vrai, qui est plus avancée. Donc, ça peut changer les sensations, ça peut changer le rapport à la mer, parce que forcément, comme on va plus vite, ben, on passe moins de temps sur l'eau. Donc, ça, c'est vrai. Mais je pense que la philosophie, le fait de vouloir aller vite, là, dans un but de compétition, dans certains autres domaines, c'était un but, on va dire, économique, cette mentalité-là reste la même, je pense.
D'accord, mais quels étaient les points de vitesse maximale quand vous avez commencé la voile en compétition? Il y a quoi, 15, 20 ans? Allez, 15 ans.
15 ans, ça devait déjà être une trentaine de nœuds quand
oui,
même.
Oui, une trentaine de nœuds. Aujourd'hui, on fait des pointes à 45 nœuds. Donc oui, on a bien progressé.
Oui, c'est moins qu'on puisse dire. Non, mais est-ce que c'est toujours... est-ce que c'est comparable, en fait? Y compris quand les bateaux décollent sur ces foils. Et on a le sentiment aujourd'hui qu'on est parfois plus proche de l'avion que du bateau.
Moi, je pense que c'est comparable. Mais...
Oui, c'est comparable parce que pour moi, de toute façon, ce sera toujours la mer qui aura le dernier mot. C'est-à-dire qu'on l'a vu sur le dernier Vendée Globe, hein, le record n'a pas été battu.
On l'avait oublié ça ou pas? Est-ce qu'à un moment, ça s'est sorti un peu de l'esprit? Il faut d'abord que le bateau arrive au bout.
Les marins l'ont pas oublié. Je pense que les marins n'ont pas oublié que la mer aura toujours le dernier mot, que quand les conditions durcissent, on aura beau avoir un bateau qui peut aller à 45 nœuds par mer plate avec un vent modéré. À ce moment-là, il faut savoir lever le pied, il faut savoir mettre le bateau en sécurité et avoir accepté d'avancer 2, 3, 4 fois moins vite. Et ça, c'était le cas déjà il y a 30, 40, 50 ans. Donc non, je pense que on a des bateaux aujourd'hui qui nous permettent, quand les conditions sont bonnes, d'aller très très vite et de pouvoir envisager des routes un peu différentes, de battre des records, et puis de faire des courses avec des bateaux fantastiques, même parfois volants. Mais c'est sûr que on sait aussi que ça se passe toujours, enfin jamais comme on a prévu, parce que la météo, elle est incertaine. La preuve, c'est que là, par exemple, on discutait tout à l'heure avec Kevin pour le départ dimanche prochain. On n'a pas encore connaissance de la météo des premiers jours de course. On va le savoir là, dans quelques jours. Et puis ça va évoluer pendant toute la traversée. Et on n'a pas encore le scénario de cette transat Jacques Vabre.
Mais c'est quand même à la fin de la semaine, quand vous avez des fichiers météo
ça va arriver.
C'est parce que vous êtes impatient, c'est ça? Vous voulez déjà pouvoir
calculer
les trajectoires de départ. Question de Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre.
Oui, ma question porte sur les dégâts qui ont pour la planète, la navigation du tout, la sportive, toutes les questions là.
Ça coûte beaucoup, Jean-Pierre.
Les marchandises. Est-ce qu'on pourrait espérer que les progrès techniques mis en œuvre dans la navigation sportive profitent un jour à une flotte de cargo qui marcherait à la voile.
On a compris l'essentiel. Merci à vous, Jean-Pierre. La liaison n'était pas très bonne, mais Kevin Escoffier, Mel Lecléache ont compris cette question sur est-ce que la navigation, vos prouesses sportives peuvent avoir un impact pour le transport de cargaison sur des bateaux à voile qu'on pourrait développer dans les prochaines années. Kevin.
Ouais, aujourd'hui, il y a plusieurs éléments. Alors, est-ce que ça vient de nous ou est-ce que ça vient juste de l'évolution normale et on trouve de nouvelles solutions aujourd'hui pour consommer moins de carburant sur les bateaux à moteur c'est qu'aujourd'hui, il y a par exemple certains logiciels de routage permettent d'optimiser les routes des cargos, donc pour tenir compte de l'état de la mer, tenir compte de la prise au vent du bateau. Aujourd'hui, on travaille également sur des voiles rigides ou des cerfs-volants. Il y a plusieurs types de choses qui sont utilisées sur les bateaux à moteur pour pouvoir, encore une fois, diminuer la consommation des bateaux. Il y a les études de carène également. Donc, il y a quelques exemples où on essaye soit de transposer ce qu'on fait dans la course, soit les mêmes études que l'on fait, nous, sur nos bateaux pour les optimiser en termes de vitesse, sont également utilisées pour des bateaux de commerce pour diminuer la consommation.
dans le sillage de la question de Jean-Pierre, un message de Lucie. La course à la performance avec des bateaux toujours plus gros, est-ce que ça ne va pas à l'encontre des impératifs environnementaux actuels? Cela donne une image de la voile pas très verte. J'ajoute une remarque de Loïc Perron, ancien vainqueur notamment de la Route du Rhum, qui vous avait suppléé au dernier moment, Armel, après un pépin sur une de vos mains, je crois. C'était il y a quelques années. Loïc Perron qui disait dans une interview, la production de nos jouets, autrement dit de nos bateaux, ne rend pas service à la planète.
Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que nos bateaux restent des laboratoires, justement, pour faire les évolutions technologiques de demain. Aujourd'hui, les bateaux, ce sont les bateaux qui vont le plus vite autour de la planète. C'est-à-dire qu'on a, notre moteur, c'est le vent. Donc, on a déjà cette chance-là et cette opportunité. Les architectes ou les techniciens ou les ingénieurs qui travaillent autour de nos bateaux travaille aujourd'hui, comme disait Kevin, sur d'autres technologies, que ce soit dans le transport maritime et dans d'autres domaines qui est lié au nautisme. Et qui, voilà, le fait qu'on arrive avec nos bateaux à pouvoir faire des tours du monde en 40 jours, faire des traversées atlantiques en 6 jours, ça va amener des débouchés pour des bateaux autres qui ne seront pas des bateaux de course pour demain. On commence aussi à construire des bateaux, à imaginer des bateaux avec des fibres qui auront un impact écologique moins fort que le carbone. Mais on a besoin de nos bateaux actuels pour pouvoir naviguer, tester les bateaux dans toutes les conditions pour que demain, justement, on puisse aller plus loin dans le choix des matériaux et imaginer les bateaux de nouvelle génération.
Mais est-ce que parfois vous êtes gêné par la course à l'armement, les budgets qui augmentent? Quel est votre budget, vous, pour cette Transat, Armel Lecléache?
Alors, ce bateau Banque Populaire 11, c'est un bateau qui coûte 12 millions d'euros. Mais il faut imaginer que c'est 150 entreprises françaises qui ont travaillé autour de ce bateau pendant 2 ans. Donc c'est à la fois aussi des créations d'emplois. Ce sont énormément d'entreprises qui ont développé des systèmes avec notre projet. Donc c'est de l'argent qui est injecté dans une économie autour du nautisme et qui fait vivre des gens, qui fait vivre des familles. Et c'est un vrai développement. On a ce qu'on appelle la Selling Valley dans la Bretagne Sud, mais c'est aussi tout le Grand Ouest et puis pas que le Grand Ouest qui travaille autour de ces bateaux de course. On fait
Est-ce que vous pourriez vous réunir avec d'autres skippers en disant voilà, on met 10 millions maximum et on va pas au-delà, comme ça peut exister dans d'autres sports pour limiter des salaires?
On le fait déjà aujourd'hui. On réfléchit. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais partie également avec l'IMOCA, puisqu'on construit un nouveau bateau avec PRB.
Ça, c'est les bateaux du Vendée Globe.
Ouais, exactement. Donc, mais ces questions-là, j'ai envie de dire que si on veut rendre service à la planète, à ce moment-là, il ne faut rien faire. Je pense que dans notre sport, bien évidemment, que quand on construit quelque chose, ça a un impact. Mais je pense quand même que dans notre sport, pour un sport mécanique, l'avantage des bateaux est d'avoir un impact qu'on essaie le plus faible possible. On a des plateformes, des bateaux là aujourd'hui. Si on regarde le départ de la Jacques Vabre, bien évidemment qu'il y a des bateaux neufs, mais il y a également de très vieux bateaux qu'on optimise, qu'on recycle, et souvent les plateformes de bateaux, elles ne sont pas là que pour un an, elles sont là pour pratiquement 10 ans. Donc c'est vrai que dans notre sport, j'ai l'impression, encore une fois, c'est vrai, c'est que s'il fallait avoir zéro impact, il ne faudrait rien faire. J'ai l'impression que dans la voile, on a un impact qui est plutôt mesuré, on va dire, par rapport aux investissements qui sont faits.
Question très précise de Raphaël, je ne sais pas si Armel peut répondre. Est-ce que dans le cahier des charges de la construction des bateaux, les skippers demandent l'interdiction de métaux rares, par exemple? Est-ce que vous savez parfaitement ce qu'il y a dans votre bateau, Armel?
Oui, on sait parfaitement ce qu'il y a dans notre bateau. Il y a beaucoup de matériaux qui sont interdits dans la construction de nos bateaux de course, pour des raisons diverses et variées. Donc non, on n'a pas de métaux rares sur nos bateaux de course. Voilà.
Question d'Isabelle. Bonsoir Isabelle.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Eh bien écoutez, j'ai une question par rapport à la vitesse de ces bateaux. Je me demande si avec des bateaux qui sont aussi rapides, est-ce qu'il y a un risque de collision avec les cétacés? Et comment est-ce qu'on négocie, un obstacle, l'évitement d'un obstacle quand on a un bateau qui va aussi vite, quand on navigue aussi rapidement sur l'océan?
Merci pour cette question, Isabelle. Kevin, Armel.
On a, en fait, effectivement, oui, c'est un élément important, la rencontre avec soit les ovnis, soit les animaux marins et les cétacés. Donc, nos bateaux, maintenant, aujourd'hui, sont équipés depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, de systèmes pour essayer d'éviter, en tout cas de faire qu'on ait le moins de collisions possibles. Donc, on a notamment sur Banque Populaire, mais c'est le cas pour plusieurs bateaux, une caméra thermique en tête de mât. donc qui va nous permettre pendant toute la course de pouvoir détecter, alors sur une distance de plusieurs centaines de mètres, mais d'avoir voilà des alarmes qui vont nous dire attention, devant nous il peut y avoir tel ou tel danger, donc il va falloir dévier la route du bateau. Et puis on a aussi sous la coque du bateau, donc nous c'est sur la dans la dérive, comme un sonar, voilà, qui va envoyer en permanence, voilà, un signal aussi pour les cétacés, pour leur prévenir de notre route,
les chasser en quelque sorte, les dissuader d'approcher.
C'est souvent pour leur signaler notre présence, et donc ils vont soit ils vont plonger, soit ils vont se déplacer pour éviter toute collision. Bien sûr, nous on est vraiment à cœur de progresser dans ce domaine-là, c'est important pour tout le monde, et donc ça fait partie des beaucoup d'entreprises travaillent là-dessus pour le futur de nos bateaux.
Beaucoup de questions ce soir, Kevin Escoffier, Armel Leclerc. Je vous parliez des enfants tout à l'heure au village départ de cette Transat Jacques Vabre au Havre. Beaucoup de questions d'enfants. Joseph, je m'appelle Joseph, j'ai 8 ans. Je vous ai suivi tous les deux pendant le dernier Vendée Globe. Alors plutôt Kevin que Armel qui lui distillait ses conseils. J'ai commencé à faire de l'optimiste et du petit catamaran. Je voudrais savoir quels conseils vous avez pour que je devienne un grand navigateur. Merci beaucoup.
Bah déjà, je pense qu'il faut être passionné. À partir du moment, un peu comme dans
tous
les domaines.
Il a l'air de l'être.
Ouais, mais c'est ouais, exactement. C'est que à partir du moment où c'est une passion, je pense que ça devient tout de suite facile. Je pense aussi, alors moi, je donnerais le conseil également de comprendre les bateaux. Je pense que c'est de plus en plus important. Les bateaux sont de plus en plus compliqués avec des appendices. On va de plus en plus vite. C'est de plus en plus technique, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que d'essayer de comprendre les bateaux. Donc ça passe forcément par un petit peu de mathématiques ou un petit peu voilà. Quelques matières, mais d'essayer de les comprendre techniquement, ça permet derrière de s'assurer de pouvoir naviguer longtemps et même de préparer ces bateaux-là. Je pense qu'il y a de plus en plus de skippers qui sont impliqués techniquement dans la construction et le développement de leurs bateaux. Et ça, c'est pas anodin. C'est parce qu'on a des bateaux qui demandent, pour pouvoir les faire aller vite, de demander de les comprendre en tant que pilote. Et donc, ça passe forcément par un peu d'études.
Alors là, c'est une question d'un petit garçon, mais si je devais imaginer une question d'une petite fille, quand elle regarde le plateau au départ, il y a 158 marins au départ de cette Transat, il y a 14 femmes. Il y en avait 10 sur 120 lors de la précédente édition. On peut pas dire que ça évolue à vitesse grand V. Qu'est-ce que vous diriez à une petite fille qui rêve de faire de la voile en compétition, Armel Lecléache, et qui peut-être serait désespérée à la vue du plateau de départ?
Bah, il faut surtout pas être désespéré, au contraire. Les femmes sont de plus en plus présentes dans le monde de la course au large. On a la chance d'avoir des compétitions qui sont mixtes, c'est-à-dire qu'il y a pas un classement femme et un classement homme. On a un classement général. On l'a vu sur le dernier Vendée Globe, il y avait plusieurs femmes au départ. Elles ont été toutes dans le match et on annonce déjà pour le prochain Vendée Globe encore plus de navigatrices au départ. Donc ça se développe. On a notamment on l'a vu sur les Jeux Olympiques, des séries qui sont des séries mixtes, où là on a du double avec garçons filles, et ça va apporter justement, je pense, des futures femmes dans la course au large qui ont envie de se lancer dans le Figaro, dans le circuit mini et dans le Vendée Globe. Il y a énormément de demandes, donc je l'espère que dans quelques années on aura encore plus de navigatrices au départ de la Jacques Vabre et des grandes courses au large en France.
Et vous aviez vous-même accompagné Clarisse Kremer il y a quelques années,
il y a 2 ans exactement,
chez Banque Populaire pour lui mettre le pied à l'étrier en quelque sorte, et elle a depuis admirablement réussi. Question de François. Bonsoir François.
Oui, bon. Vous m'entendez?
On vous entend, jusqu'ici on vous entend, allez-y.
Mais d'abord, merci beaucoup à France Inter pour tout ce que vous faites, c'est vraiment 20 ans de bon compagnonnage avec moi. J'avais juste une question assez précise. Je me demandais comment ça se faisait que dans des courses comme le Vendée Globe, la Route du Rhum et la Transat, il y a une surreprésentation des skippers français. On a l'impression que ça fait un peu bon, c'est nos courses à nous, puis de temps en temps il y en a 2-3 qui pointent leur nez. Et est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres courses, d'autres nationalités, ou voilà, je me posais la question.
Est-ce que vous restez entre vous dans ces courses, nous dit François, Armel Lecléache, vous dissuadez toute concurrence étrangère ?
Non, bah on l'a vu sur le dernier Vendée Globe, je sais plus quel était le pourcentage des skippers étrangers, mais il devait être autour de 30 ou 40%, j'ai pas le chiffre exact. On avait un japonais, on avait un suisse, on avait des anglais, on avait voilà plusieurs nations. C'est vrai que là, en France, on a on l'a dit tout à l'heure avec l'auditeur sur voilà, ces marins historiques comme Tabarly, comme Moitessier qui ont fait qu'aujourd'hui moi et plein d'autres marins on soit au départ des grandes courses, parce que il y a une vraie histoire de la course au large en solitaire en France. Mais ça se développe à l'étranger. C'est vrai que les anglo-saxons notamment ont plutôt une culture de la course en équipage, sur les tours du monde en équipage, sur la Coupe de l'Amérique. C'est là où aujourd'hui justement la France a peine à gagner cette grande épreuve nautique. Mais c'est vrai qu'on le voit notamment avec le Vendée Globe, c'est quelque chose qui est en train de se développer à l'étranger. Et je pense que le jour où il y aura un skipper étranger qui gagnera le Vendée Globe, ça a failli se faire en 2017, parce que je
Alex
sais
Thompson.
Bien avec Alex Thompson qui est arrivé juste derrière moi. Le jour où un skipper étranger gagnera Vendée Globe, je pense que ça va amener des vocations et peut-être un grand changement.
Et puis on rappelle qu'Hélène MacArthur a gagné en son temps la Route du Rhum au début des années 2000 en IMOCA. Les médias étrangers s'intéressent beaucoup à cette transat, là où vraiment il n'y a que les Français qui vont vous suivre du Havre vers la Martinique, Kevin Escoffier.
Je pense qu'historiquement vraiment, quand même, c'est vrai que ça reste des courses... on va dire francophone au sens, comme le disait Armel, c'est-à-dire que la course au large en solitaire, c'est quelque chose de très français, mais qui intéresse maintenant des skippers étrangers. On voit qu'il y a des Américains, il y a des Anglais, il y a des Suisses sur des bateaux neufs également. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais par exemple les IMOCA aujourd'hui sont également le support de référence pour l'Ocean Race, qui est une course autour du monde en équipage. Et je pense que ce changement va favoriser justement des transferts, que ce soit des Français pour aller vers les courses en équipage anglo-saxonne ou des anglo-saxons vers nos courses en équipage réduit, double ou solitaire.
Julien nous écrit un mail. Comment se fait-il que jusqu'au dernier moment avant le départ, on puisse voir des techniciens vissés, riftés, poncés comme si le bateau n'était pas tout à fait prêt? Expérience vécue sur un départ de Route du Rhum. Il est pas prêt le bateau, Armel?
Alors, si, nous il est prêt. Alors c'est vrai que dans les 80 bateaux qu'il y a au départ, il y a à la fois des bateaux avec des skippers professionnels, c'est notre cas, et puis des bateaux avec des skippers amateurs qui ont un autre métier à côté. Et donc c'est vrai qu'on peut voir encore quelques marins ou quelques bateaux bricolés à quelques jours du départ ou quelques heures du départ. Ça fait partie aussi voilà de l'ambiance, et puis d'avoir cette multitude de marins avec différentes approches. Donc nous, Banque Populaire, on est prêt, on a une équipe professionnelle de 15 personnes qui travaillent avec nous toute l'année, et on est prêt, on sera prêt pour dimanche à 13h27 le départ.
13h27 précise, ne le manquez pas, ce sera en direct sur France Inter. Merci à tous les deux, Armel Leclerc, Kevin Escoffier. Je vous transmets les encouragements de tous les auditeurs de France Inter, et particulièrement de Quentin qui a 14 ans, qui vous apprécie tous les deux pour vous avoir suivi dans vos Vendée Globes respectifs. Grâce à vous tous les skippers, je me suis découvert une passion pour la navigation. Je pratique la voile depuis 2016. Je souhaite faire un métier autour des bateaux. Je veux être architecte naval. Bon vent pour la Transat, Jacques Vabre. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.